Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Live sur RMC. Merci d'être avec nous. La suite des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions ce soir. Deux affiches, Porto-Inter, affiche indécise, 1-0 pour l'Inter au match aller. Et Manchester City-Leipzig, 1-1 au match aller. Il y a du suspense ce soir en Ligue des Champions. À mes côtés pour m'accompagner, coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Heureux d'accueillir cette grande soirée sur RMC Ligue des Champions. J'accueille également tout de suite, on a convoqué bien sûr pour l'Allemagne Polo Breitner pour parler de Leipzig. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Julien Laurent arrive également dans un instant pour nous éclairer sur la forme actuelle de Manchester City. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs au 32-16, participer à nos débats, cet avant-match qui va nous conduire jusqu'à 21h, le coup d'envoi de ces deux huitièmes de finale. Retour, on fera un point également sur l'actualité. Les infos foot du jour, notamment la forme de Benzema avant le Real Madrid-Liverpool demain soir. On évoquera également le choix d'Oussem Aouar qui va donc porter les couleurs de l'Algérie. Lui qui avait déjà porté les couleurs de l'équipe de France, mais c'était un match non officiel, un match amical. Il va donc porter les couleurs du pays, de ses parents. On en parlera tout à l'heure à partir de 20h30. Mais d'abord donc, l'affiche de la soirée, Manchester City, Leipzig. Les compositions dans un instant avec Timothée Mémon. Mon cher Polo, on en a parlé hier soir dans Génération After. Ah, Jeannot est là, c'est bon pour les compositions bien sûr. C'est Jeannot Rességuier qui va commenter ce match avant d'écouter Polo. Bonsoir Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Alors raconte-nous, tu vois, les compositions officielles évidemment.
Oui, effectivement. Alors, semble-t-il, on verra avec Julien Laurence, mais défense à 4 pour Manchester City avec Ederson dans les buts. Stones latéral droit, Ake latéral gauche et donc Akanji et Ruben Dias pour la charnière. Milieu de terrain, Rodri, Gundogan sur le côté gauche, De Bruyne sur le côté droit et puis dans les couloirs offensifs, Grealish à gauche, Bernardo Silva à droite et Haaland dans l'axe de l'attaque de Manchester City. Donc voilà pour les choix de Pep Guardiola. Pour ce qui est du RB Leipzig, il y a on va dire une modification puisque Slager s'est blessé donc est absent par rapport au match aller. Blažević lui est toujours dans le but puisqu'il y a toujours la blessure de Gulácsik et depuis le début du mois d'octobre, rupture des ligaments croisés. Henrich a gagné ses galons de titulaire par rapport au match aller dans le couloir droit, tout comme Rome sur le côté gauche. Orban, le capitaine, avec Guardiola, le buteur du match aller. Lemar, Campbell et Aydara, donc au milieu de terrain. Werner sur le côté gauche. Szoboszlai, le Hongrois, sur le côté droit. Et un faux numéro 9 avec donc Fosberg. C'est assez surprenant, mais Polo Breitner va nous éclairer très certainement, puisque André Silva est sur le banc des remplaçants pour la formation de Leipzig. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé dimanche soir, et vous allez en parler dans quelques instants avec Walker, il est donc pas titulaire, et mais oui, sur le banc des remplaçants.
On en parlera avec Julien Laurence après ces frasques nocturnes, celle de Kyle Walker dans un pub de Manchester. Polo, éclaire-nous, pourquoi pas l'André Silva au début de ce match ce soir?
Ah bah la compo est surprenante, c'est la première fois depuis sa prise de fonction dans le club saxon que Marco Rose nous met trois milieux de terrain, donc il a donc décidé de densifier. Je suis pas persuadé que c'est la bonne tactique à adopter contre Manchester City, donc en fait il va jouer tout pour le contre. À noter qu'il a quand même mis deux latéraux, Heinrich et Rome, c'était pas obligatoire, il pouvait très bien mettre Alstenberg qui joue souvent sur le côté gauche. Non, il a décidé de mettre Aydara, Campbell. On se posait la question en fait, si c'était Campbell ou Aydara, maintenant c'est Aydara et Campbell avec Leimer. Donc en fait on va avoir sur le côté gauche Werner pour les contres évidemment, et puis on va avoir Forsberg, comme l'a très bien dit Jeannot, en faux neuf, ou qui sera en deuxième attaquant en fonction de comment se passera les contres. Mais c'est quand même un style, j'ai envie de dire, très très minimaliste que nous propose Leipzig ce soir. En gros, je veux tenir tout ce que je peux, et si je peux planter un contre, on va essayer de fonctionner comme ça. Moi ça me plaît honnêtement très très moyennement.
Un partout au match, je le rappelle, Leipzig qui va essayer de... On en parlera tout à à l'heure, hein, de péter ce plafond de verre des huitièmes de finale. Il l'avait déjà fait, on se rappelle, une demi-finale contre le PSG.
Absence,
et qui veut s'affirmer comme un grand club européen. Comment, coach?
Je dis absence importante, Nkunku.
Eh oui, il y a Nkunku qui a rejeté Polo d'ailleurs. Hein,
ouais,
et qui trouve quand même le moyen, Nkunku, d'être toujours deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 12 buts d'ailleurs, hein, malgré une saison hachée par les blessures.
Tout à fait, rappelons quand même qu'il a été élu meilleur joueur de Bundesliga l'année dernière. Il était un petit peu sur la même lancée, il a eu cette blessure. Ça se voit pas trop au niveau des résultats, parce que l'affiche est vraiment dans une grosse forme en ce moment, y compris ce week-end, même si la première mi-temps a pas été terrible contre Mönchengladbach, mais ils ont fini par l'emporter 3-0. Donc il est remplacé normalement par Forsberg. N'oublions pas la blessure d'Olmo aussi, qu'on retrouve sur le banc, qui aurait pu aussi exploser vraiment. Celui qui a vraiment la plus-value en ce moment, il y en a deux en fait. Il y a Werner qui revient à un très très bon niveau. J'ai pas envie de dire un grand niveau, mais en tout cas un très bon niveau. Et puis il y a le Hongrois Szoboszlai en tant que meneur de jeu qui est vraiment en train d'exploser et qui lui a vraiment bénéficié entre guillemets de la blessure de Nkunku. À noter aussi, coach l'a dit, la blessure de Nkunku, mais encore une fois, ils ont c'est le gardien numéro 2 qui est dans les buts. Ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a Schlager qui est pas là quand même. C'est le 6-8 en box-to-box. Il y en a pas beaucoup des profils comme ça en Europe. Donc voilà, ce sera Edara et Kempel de compenser, de faire le boulot. Mais encore une fois, c'est la première fois de la saison qu'il le fait. Donc ils ont une forme de coup de poker. On se rappelle la première mi-temps au match aller, c'était pas terrible. Hein. On comprend pas pourquoi Leipzig n'a pas joué tout simplement. Ça a été mieux en seconde mi-temps. À voir ce que ça va donner. Mais bon, je suis un petit peu déçu par la composition. On va dire et ça comme ça.
Par rapport à Nkunku, hein, c'est ce qu'on appelle une blessure de compensation. Hein. On rappelle qu'il avait eu les déchirures des ligaments du genou gauche, qu'il avait privé de la Coupe du Monde. Il se fait cette blessure d'ailleurs lors du rassemblement avec les Bleus. Il revient, il participe un peu au match aller. Et là, c'est une blessure musculaire
Souvent c'est la compensation, voilà. Ça,
du côté du staff de l'équipe de France, puisqu'il y a la liste de jeudi, hein, on a un petit peu bossé là-dessus avec Arthur Perrault et Fabrice Hawkins, c'est ce qu'on nous a fait comprendre, c'est que voilà, il y a vraiment, le délai est trop court et c'est ce qu'on appelle une blessure de compensation.
Julien Laurent est avec nous, salut Julien. Julien Laurent, es-tu là?
Salut Nico, salut à tous.
Julien est avec nous pour nous parler de Manchester City. Est-ce que ce sera enfin l'année de City en Ligue des Champions? On va en débattre dans un instant, depuis l'arrivée des Émiratis à la tête du club en 2008, il y a 15 ans déjà. D'abord un mot sur la compo, Julien. Tu nous disais hier dans Génération After qu'on ne savait pas ce qu'allait faire Guardiola ce soir. Bon, on est fixé, hein. De Bruyne déjà est titulaire.
Titulaire, effectivement, lui qui avait quand même été sur le banc 3 des 7 derniers matchs de championnat, ce qui est pour un joueur de son statut et de son calibre, c'est quand même pas anodin. Il est titulaire ce soir, pas de Riyad Mahrez, toujours pas de Riyad Mahrez, je dirais, alors que c'est quand même le meilleur buteur après Haaland, bien sûr, de la saison. J'ai du mal à comprendre son absence, et pas que ce soir, mais sur les derniers matchs aussi. On a Bernardo Silva qui devrait donc jouer à sa place, côté droit, même si c'est une position qu'il occupe très très peu cette saison, puisqu'il joue beaucoup plus au milieu de terrain. Donc je pense, pour revenir sur ce que Paulo disait un peu par rapport à la compo de Leipzig, je pense que c'est aussi assez minimaliste du côté de Pep Guardiola, de se priver d'un vrai ailier, d'un autre vrai attaquant, pour mettre Bernardo à la place avec son profil un petit peu plus couteau suisse, qui va jouer un petit peu partout, on va le voir ce soir. Et puis Haaland et Grealish, mais même Foden est sur le banc, et je pense que Foden mériterait aussi peut-être des titulaires vu la forme qu'il avait affichée ces derniers temps. Et puis une défense à 4 centraux. Jamais de ma vie, je pense que j'aurais vu Pep Guardiola aligner une défense à 4 centraux. Et pourtant, c'est bien ce qu'il a fait à la Didier Deschamps, hein, finalement, de 2018 à la Coupe du Monde. Voilà, c'est un peu pareil. Stones, Ake, Akanji, Diaz. Donc voilà, une équipe de Pep Guardiola sans arrière latéral, comme c'était le cas d'ailleurs en championnat le week-end dernier contre Crystal Palace.
Didier Guardiola, coach, ce soir.
Oui,
un peu ça.
Pourquoi pas. Mais disons que c'est passionnant. Moi, j'observe un petit peu ce qui se passe dans toutes les équipes, comme le passionné que je suis et l'ex-entraîneur que je suis aussi. Et là, je regarde ce qui se passe du côté de Manchester City, avec notamment les pour Haaland et les contre Haaland. Mais c'est vrai que quand on a Haaland et la chance d'avoir Haaland, je pose la question, je me la pose et je vous la pose. Est-ce que l'organisation pour Haaland, la meilleure, c'est le 4-3-3? Est-ce que ça serait pas plutôt un 4-2-3-1 avec ce joueur-là à la pointe de l'attaque? Puisque le 4-3-3, pour moi, le numéro 9, c'est pas un véritable numéro 9, c'est un 9,5 ou un faux numéro 9. Mais là, quand on a un vrai 9, est-ce que pour ce vrai 9, alors après, il peut y avoir Foden qui rentre, Mahrez qui rentre, mais est-ce que c'est pas la meilleure formule pour Haaland de lui mettre trois coéquipiers, un derrière lui, un à sa droite et un à sa gauche. C'est la question que je me pose. J'ai pas la réponse.
Je pense que De Bruyne jouera un peu plus axial, coach. Et Gundogan et Rodri derrière lui. Donc je pense qu'on pourrait voir un petit peu ce que tu souhaites ce soir aussi.
Ah ben là, si c'est ça, là je comprendrais mieux. Et en plus de ça, Mahrez et Foden qui peuvent rentrer à tout moment. Un côté droit, un côté gauche, mais c'est monstrueux comme équipe.
Je ne sais pas si tu as vu ce qu'a dit Pep Guardiola, hein, d'Erling Haaland, récemment, en conférence de presse d'avant-match. Il a dit « Je n'aime pas qu'un joueur ne fasse que marquer des buts dans la surface. C'est important, évidemment, mais on a besoin qu'il soit plus actif.
Ouais. » Oui,
on parle de participation au jeu. C'est ce qu'il attend d'Erling Haaland.
Participation au jeu. Il va répéter ça.
Est-il capable de le faire vraiment comme il l'attend, Guardiola ? C'est la question également.
Ils y travaillent. C'est ce que Guardiola dit aussi. Ils y travaillent. On fait le maximum.
Déjà, tu sais, quand tu es en Haaland, tu sais très bien que les adversaires vont quand même utiliser deux joueurs dans sa zone. Ce qui est quand même intéressant pour ses coéquipiers. Hein, c'est comme quand, par exemple, on parle du débat que Mbappé doit défendre, et que moi, l'original, je l'interdis de défendre, sinon il a une amende. Parce que quand je sais que pour Mbappé, il y aura deux adversaires qui seront sur Mbappé, c'est quand même intéressant pour ces neuf joueurs de champ coéquipiers qui vont quand même jouer à neuf contre huit.
Bon, là quand il parle de participation au jeu, c'est pas forcément, tu parles d'aspect défensif aussi, coach, hein. Il demande une participation au jeu offensive, c'est ça, Julien.
Voilà, c'est ça. Lui c'est dans la construction du jeu. Par exemple, on l'a vu à Tottenham, où ils ont perdu d'ailleurs, cette saison, où clairement le plan de jeu de City, c'était de s'appuyer beaucoup sur Haaland qui décrochait pour venir jouer en remise dos au but adverse, qu'il a eu beaucoup de mal, à faire parce que
il fallait pas recruter Haaland, il fallait recruter Kane.
Non, mais c'est pas la question. Je pense que c'est pas la question. Il avait Agüero, et qu'Agüero participe pas plus à la construction du jeu et au jeu, parce qu'Agüero c'était aussi un finisseur, des plus grands finisseurs que l'Angleterre ait jamais connu, enfin, et l'Argentine et les pays où il a joué, l'Espagne, etc., l'Atlético, mais ça énervait Guardiola. Et par exemple, il lui préférait à un moment Gabriel Jesus, qui lui était beaucoup plus capable de participer à la construction du jeu, d'être dans les petits espaces, jouer entre les lignes. Ce qu'Agüero, un, n'aimait pas faire, et deux, savait pas faire. Avec Haaland, je pense qu'à un moment où on peut t'amener à Haaland, tu le recrutes forcément. Et d'ailleurs, Marco Rose, hier, on lui a posé la question dans la conférence de presse, et lui il disait, mais je comprends pas votre débat là, mais moi, si vous en voulez pas, donnez-le-moi, hein, Haaland, je le récupère.
Mais c'est vrai, pas le d'ailleurs. Sujet, en réalité, c'est pas vraiment le sujet.
Non, exactement.
Ça pourrait être efficace, c'est d'Haaland, c'est ça. Ouais.
Mais même Kylian qui aime pas jouer en pivot, le fameux pivot gate, etc. S'il était là avec Guardiola lui demanderait la même chose. Il lui dirait, j'ai besoin de toi, de venir dans la construction, de jouer dos au but, de faire ceci, de faire cela. Ça fait partie du rôle des joueurs. Notamment des numéros 9 chez Guardiola.
Polo, qui connaît très bien Erling Haaland, hein, puisqu'il a cédé à Julien, en provenance du Borussia Dortmund. Ouais. Tu penses qu'il a ce profil, il a une marge de progression dans la participation au jeu, Erling Haaland ?
Oui, mais encore une fois, moi, le Manchester City, moi je suis tout à fait d'accord avec Julien sur la question de Haaland. Déjà, quand on me dit qu'il n'est pas adapté au jeu, enfin je sais pas, il est à un but par match, donc il faudrait qu'on m'explique ce que c'est que pas être adapté au jeu de Manchester City. Mais là, en fait, moi, ce que je vois, c'est que Manchester City est une équipe qui cherche à posséder le ballon systématiquement aussi. Donc ça n'aide pas forcément l'attaquant, quel qu'il soit, à s'exprimer. Lorsqu'il était au Borussia Dortmund, je voyais Haaland défendre sur les corners, faire courir 70 mètres, revenir en pivot, partir sur les ailes, etc. Donc c'est aussi un choix. C'était une équipe qui dominait beaucoup moins au niveau de la possession que Manchester City. Donc je crois que c'est aussi un choix. On est dans l'ultime avec Pep Guardiola dans un style de jeu. S'il pouvait avoir 100% de possession de balle, il aurait 100%.
Exactement.
Et donc, je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas, c'est une erreur d'analyse, mais en tout cas, ça ne favorise pas l'éclosion, j'ai envie de dire, du neuf. Maintenant, sa marge de progression, elle est énorme. Bon, moi, j'en suis intimement
persuadé.
Et très jeune, quand même.
Jérôme nous dit sur Direct Studio, hein, bonsoir, je pense que Guardiola n'aime pas les neuf, il préfère les huit ou les dix. Bon, voilà, éternel débat.
Il a déjà dit, hein, que lui, il aimerait une équipe à 11 que de milieu de terrain. Donc,
Ouais, mais il était heureux d'accueillir Haaland. Bon, et pour l'instant, ses stats sont quand même affolantes. On va prolonger dans un instant avec vous, parce qu'on a d'autres thèmes à évoquer, notamment concernant le RB Leipzig. Mon cher Polo, on va parler de Kyle Walker dans un instant avec toi, Julien. Reste avec nous et on donnera les compositions également tout à l'heure du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Porto et l'Inter. Nico Villas sera avec nous ainsi que Johan Crochet. Reste avec nous, c'est l'After Live sur RMC, il est 20h14 en compagnie de Coach Courbis. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Jamin.
La suite des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Deux affiches ce soir, Porto-Inter et Manchester City, RB Leipzig. On est avec Coach Courbis, mais également avec Paulo Breitner et Julien Laurence. Donc, Nkunku, on le rappelle, n'est pas là ce soir. Meilleur joueur, Paulo, hein, je m'avance un peu, mais je crois que je ne prends pas trop de risques, hein, du RB Leipzig. Toujours deuxième meilleur buteur du Bundesliga. Et donc, Timo Werner, titulaire ce soir. Bien sûr, encore une fois, mon cher Paulo. Comment tu juges sa forme actuelle depuis son retour en Allemagne au RB Leipzig après deux saisons plus que moyennes à Chelsea?
Alors ce n'est pas le Timo Werner, j'ai envie de dire, d'avant Chelsea, ça c'est clair. Maintenant, il a eu du mal au début, mais Marco Rose lui donne sa confiance et il lui rend, parce qu'il marque quasiment un but tous les deux rencontres. C'est un Timo Werner, j'ai envie de dire, qu'on est vraiment, j'ai pas envie de dire minimaliste non plus, mais bon, on sait qu'il va très vite. On sait qu'il peut marquer parfois dans n'importe quelle position. Et puis, il est capable de se planter complètement dans une rencontre. Et je crois qu'il va falloir s'habituer à ça. Donc, ce ne sera jamais un grand attaquant. Je crois qu'il faut oublier le Timo Werner 9, et notamment en équipe d'Allemagne, en disant, on va jouer en 4-2-3-1 avec Timo Werner en 9. Non, ça ne fonctionnera pas non plus. C'est quelqu'un qui sera plus un attaquant d'aile, ou en 3-4-2-1, qui peut évidemment jouer dans les deux avec un milieu offensif à côté de lui, comme Szoboszlai. Ce soir, là, on voit qu'en fait, il va jouer en forme de deuxième attaquant derrière. Il va sûrement d'ailleurs un peu alterné avec Forsberg, et puis encore une fois Szoboszlai va être le meneur de jeu, mais voilà, il est revenu à un bon niveau, c'est-à-dire on va dire un niveau international, mais ce ne sera jamais un grand attaquant.
C'est intéressant ce que dit Michel Ballack, hein, dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Il dit que c'est psychologique également, c'est un joueur qui est un peu trop timide, qui ne croit pas assez en lui.
Ouais, mais enfin, moi, je pense que c'est aussi très générationnel. Non, moi, j'y crois pas. C'est aussi très générationnel. Ces nouveaux Allemands, comme dit souvent, ils sont bien gentils, ils ont la technique, ils ont tout ce qu'on veut. Mais dès que ça devient un petit peu dur, eh ben, y a plus personne au portillon. Et moi, je constate ça. C'est-à-dire qu'on déplore ça parce que Ballack, il est bien gentil. Ballack, il a complètement allumé l'équipe d'Allemagne après la Coupe du Monde 2022 en disant, c'est quoi ces jours-là? C'est pas des jours de football. Il a parlé de virilité et tout ça. Donc, si tu veux, comme souvent dans les grands champions, le mardi, ils disent l'inverse de ce qu'ils disent le lundi. Donc, la question de la confiance, moi j'y crois pas. Il a échoué à Chelsea, c'est pas grave, il revient, et ben refais-toi la cerise, t'es en huitième de Ligue des Champions, etc. Mais je crois qu'il est limité tout simplement. Je suis pas sûr qu'il ait un QI football si important que ça. Je suis pas sûr non plus que ce soit. Vous savez, aussi on a aussi cette tendance, dès qu'on voit un jeune aujourd'hui qui marque des buts dans une saison, on dit ah il va progresser, il va devenir un grand et ceci et cela. Ben non, quand tu regardes sur les dernières décennies, il y a eu beaucoup d'espoir en Allemagne et des grands, ben il y en a pas des masses. En fait,
tu parles des attaquants, hein, surtout, Paulo.
Mais même les défenseurs centraux. Hein.
Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ça fait longtemps que la Nationalmannschaft, l'Allemagne, ne sort plus de grands défenseurs centraux. Enfin, quelques années en tout cas.
Et plus neuf non plus.
Julien, un mot sur Kyle Walker, évidemment, qui n'est pas titulaire ce soir. Il ne l'était pas également ce week-end. C'est forcément dû à ses frasques nocturnes dans un pub de Manchester.
Ouais, je pense effectivement. Il y a 15 jours de cela, un peu plus de 15 jours maintenant, où il a montré son zizi à tout le monde, pour le dire comme c'est, hein, exhibitionnisme. Ensuite, il a approché de trop près une jeune fille qui était dans le pub aussi, avec des bisous, des caresses, etc. Pas forcément voulu de par la personne. Donc voilà, il y a une enquête qui est en cours de la police, de Manchester City.
Les enquêteurs, ils ont moins de boulot là. Donc c'est carrément.
Là, on voit tout sur la vidéo de surveillance.
Il n'y a même pas de garde à vue, pas besoin de le questionner.
Non, mais voilà, c'est sûr. Alors, c'est quand même quelqu'un qui, en période de confinement total, a quand même organisé une orgie sexuelle avec deux prostituées. Enfin, voilà, c'est pas la première fois qu'on parle de Kyle Walker, qui est quand même marié avec trois enfants de cette façon-là. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il aurait titulaire ce soir, le week-end dernier aussi. Il est dans le groupe. Déjà, c'est bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de clubs et beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient même pas pris dans les groupes. Mais voilà, comme les Anglais disent, hein, t'es innocent jusqu'à ce qu'on prouve que tu sois coupable. Donc pour l'instant, c'est ce que Guardiola accepte et on verra bien la suite. On devrait savoir très rapidement.
C'est l'éternel problème, présomption d'innocence.
Exactement.
Mais il y a présomption de culpabilité aussi.
Exactement. Bon, il y a cette phrase un peu maladroite, je trouve, de Guardiola qui dit j'ai dit aux joueurs que les temps ont changé, maintenant ils sont filmés partout où qu'ils aillent, quoi. Bon, voilà, c'est bon, bref. Ouais.
C'est pas Boisama, mais on n'est pas loin quand même. Faut faire attention.
On est d'accord. Un mot également, mon cher Julien, de la forme actuelle de Jack Grealish, hein, qui revient en très bonne forme. On n'a jamais su réellement le juger sur la durée, Jack Grealish. Guardiola compte sérieusement sur lui désormais.
C'est vrai, je pense qu'il est le titulaire à ce poste des liés gauche là. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité, c'était jamais le problème, mais qui a mis beaucoup de temps, peut-être plus de temps que d'autres, plus de temps que d'habitude pour s'acclimater au système, à la méthode Guardiola, au jeu de Manchester City. La saison dernière, ça avait quand même été très compliqué pour lui. Et je crois qu'il avait marqué 3 buts dans la saison et 3 passes D ou un truc comme ça. C'est pour un joueur de mais c'est même pas trop les buts et les passes D, c'était aussi ce qu'il faisait dans le match en général. Là, il est beaucoup plus il est bien meilleur déjà, il a beaucoup plus de responsabilités dans le jeu, même si au final au niveau des buts et des passes D, il en est à 3 et 4 je crois, donc pas beaucoup plus que la saison dernière, même s'il reste des matchs, mais c'est plus dans l'impact qu'il peut avoir sur les rencontres avec le ballon notamment. Il provoque toujours beaucoup, mais cette fois ça rapporte des coups francs, ça rapporte des pénaltys, ça rapporte des situations dangereuses dont d'autres bénéficient aussi. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup mieux et ça se voit. Et puis même lui, tu sens qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus heureux, il est beaucoup plus intégré, acclimaté et tout ça. Donc c'est vrai que ce sera un joueur très important ce soir. Et en fait le joueur que Guardiola voulait toujours, le joueur à 100 millions qu'on revoit enfin et qu'on n'avait pas du tout vu la saison dernière.
Bon, Polo, je sais que t'es un peu déçu par la composition alignée par Marco Reus ce soir, mais est-ce que tu penses que Leipzig peut quand même le faire?
Ben, je l'espère, parce qu'en fait, moi, je regarde souvent la forme du moment et ça peut te permettre d'avoir certaines indications. Et Leipzig, depuis la reprise, eh ben, marche très très bien, malgré deux défaites complètement imméritées au passage. L'une à domicile contre Union de Berlin, où on comprend toujours pas comment Union a pu l'emporter là-bas lorsqu'ils étaient menés 1-0 et que Leipzig dominait de la tête et des épaules de la rencontre. Et puis cette défaite à Dortmund 2-1, où Leipzig poussait, notamment dans le dernier quart d'heure, alors qu'ils étaient à 10 seulement contre les 11 joueurs de Dortmund, et t'avais le public qui était tellement en feu qu'il voulait descendre sur le terrain pour protéger les buts du gardien du Borussia Dortmund. Donc c'était ils sont bien, vraiment bien en ce moment. Encore une fois, il y a la compo qui me perturbe un petit peu, mais Marco Rose a fait un super boulot. Ils avaient perdu, donc là ils en sont à 2 défaites sur les 22 dernières rencontres. Ils peuvent passer au travers, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'ils explosent contre City ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir beaucoup beaucoup courir le milieu de terrain pour essayer de le récupérer et qui vont jouer en contre. Mais j'espère, parce que déjà, ça a l'air de rien, mais Leipzig réussit pas mal contre les clubs anglais. On en parlait un petit peu hier soir dans l'after, ce qui est assez rare pour les clubs allemands sur la dernière décennie. Donc 4 victoires, 1 nul, 4 défaites. Il y a 2 ans, en 8e, Liverpool leur a montré leurs limites. Lors du final Final 8, et en 2020, ils avaient notamment battu en 8e Tottenham en 8e de finale 2 fois. Ils ont encore battu des équipes comme ça. Ils ont battu le Real, ils ont battu le PSG. Donc ils commencent à avoir un certain, j'ai envie de dire, un tableau de chasse européen, mais il leur manque peut-être une nouvelle épopée pour confirmer ce qui s'était passé en 2020.
Coach, est-ce que tu imagines Leipzig faire l'exploit ce soir?
Non.
Ah, c'est très clair.
Au complet, oui. Merci, coach. Avec un coucou et comment il s'appelle cet attaquant qui est pas là non plus de Leipzig.
Silva?
Hein? André Silva?
André Silva.
Non, de Leipzig.
Ben oui, André
Silva. Oui, c'est ça. Werner est bien là ce soir.
Il y a Goulachy, le gardien, qui n'est pas là. Il y a Schlager au milieu de terrain qui n'est pas là.
C'est André Silva qui est sur le banc, coach, peut-être, non? Je pense à qui?
Non, je pense
à... Et après Nkunku.
Nkunku.
Bon, ben, ok, voilà. c'est moi qui oublie. Bon,
en tout cas, tu ne les vois pas éliminer City ce soir.
Non, au complet, avec Nkunku en forme, oui, pourquoi pas. Non, là, non, je ne m'imagine pas cet exploit.
Marco Rose, qui a quand même, c'est la 4e fois qu'il affronte Manchester City, le pauvre, en phase d'élimination directe, c'est hallucinant. À chaque tirage, il doit se dire, mais c'est pas possible, j'ai lagging. Et donc, il a perdu les trois premières doubles confrontations. On verra ce soir s'il y a une 4e.
Bon, coach, tu penses à Poulsen, peut-être, c'est ça?
Exactement.
Hein, exactement. Au Danois, Poulsen. Julien, une question quand même, parce que bon, on a vécu, nous, l'élimination du PSG, la grosse pression autour du Paris Saint-Germain, après ses investissements depuis de nombreuses années. Est-ce que la pression est la même sur City? Je sais que Guardiola a dit que non, pour lui, c'est pas forcément le plus important, c'est pas ainsi qu'il doit être jugé sur son palmarès européen avec City, qui pour l'instant, qui n'a pas alimenté. 12 ans que les Émiratis sont arrivés. Est-ce qu'il y a une grosse, très grosse attente pour un City qui est toujours favori à chaque début de saison?
Oui, bien sûr, une grosse pression. Hier, on a encore posé la question à Guardiola, qui a dit, je sais, c'est comme ça qu'on sera jugé sur cette compétition. Et tu as raison, il le trouve pas forcément ça normal, mais je pense qu'il le comprend très bien. Et il racontait hier, dès mon premier jour à Manchester City, on m'a demandé, alors, on va la gagner, la Ligue des Champions? Et il dit, mais non, mais c'est pas, encore si on était le Real de Madrid, peut-être, le Real Madrid, pardon, peut-être, mais pas comme, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il a, il a raison, même si je pense que ça marche peut-être la première saison, la deuxième, la troisième, et puis après quand t'es une équipe de Guardiola et que t'es en poste maintenant, tu vas donc la finir ta septième saison. C'est plus la même histoire. À un moment, et je pense qu'il aurait dû la gagner, il aurait pu la gagner. Il a eu cette finale qu'il, même s'il veut pas l'avouer, regrettera très longtemps l'absence, enfin son équipe de départ surtout, et cette absence incroyable de numéro 6 contre Chelsea de Thomas Tuchel. Donc voilà, il a eu des opportunités, il n'a pas su les saisir. Parfois, il a fait un peu n'importe quoi. On l'a dit. Parfois, ça s'est joué à rien du tout. On l'a dit aussi. Parfois, il aurait sûrement mérité de gagner, de passer, d'aller plus loin. Ça n'a pas été le cas.
Et ça, il y a eu son invention contre Lyon aussi, qui était pas mal.
Ouais, mais Lyon, mais après la liste, elle est longue, coach. Hein, on en a déjà parlé, mais on en parlait déjà lundi dans l'émission. Je ne veux pas refaire le coup de.
Mais c'est vrai que, on se met à sa place. Il est tellement talentueux que ne pas faire un truc original avant un match de football dans une demi-finale ou une finale de Champions League. Donc, c'est pas amusant. Donc, c'est sûr que.
C'est pas comme ça qu'il le voit, lui, coach. Il l'a expliqué, on l'a expliqué lundi dans l'émission. Lui, il dit ça, je pourrais très bien mettre la même équipe, hein, l'équipe. Que tout le monde veut voir, l'équipe attendue à chaque match, et comme ça ce serait pas de ma faute si on perdait, mais lui voit les choses différemment.
Il prend des risques, coach, quand même.
Ouais, mais il voit les choses différemment, c'est-à-dire il voit que l'option qu'il doit prendre, mais ça doit être une surprise pour tout le monde, et surtout qu'après cette surprise on se dit il n'y avait que Guardiola pour penser à ça.
Voilà pour City Leipzig, un coup d'envoi à 21h. Merci Polo.
Merci à vous.
Tu seras là dans le débrief de l'after avec Gilbert, Daniel et Lionel Charbonnier tout à l'heure. Julien, on te regarde encore quelques minutes, on fait une pause, on vient dans un instant. On va parler notamment de Chelsea qui va devoir dégraisser l'été prochain. La liste est longue de joueurs susceptibles de partir. On va vous en parler avec coach et Julien Laurence. Restez avec nous, c'est l'after live. Et on n'oublie pas l'autre 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Porto et l'Inter Milan. Les compos dans un instant également. A tout de suite sur RMC 20h27.
RMC, l'after live.
Nicolas Jamain.
L'Afterlife sur RMC, soirée Ligue des Champions, la suite des 8e de finale, retour de la première des Coupes d'Europe avec coach Courbis à mes côtés. Je vous rappelle les affiches ce soir, on suivra l'affiche de la soirée, notamment Manchester City Leipzig et à 21h également Porto Inter, les compositions dans un instant. Mais d'abord, l'actu du jour, hein. Il y a beaucoup d'actu, coach, aujourd'hui notamment. Qui concerne la prochaine Coupe du Monde 2026, on va en parler dans un instant, la forme de Benzema avant la réception par le Real de Liverpool demain soir, mais aussi Chelsea. Julien Laurence est toujours avec nous, le très sérieux journal The Athletic nous affirme aujourd'hui que Chelsea va devoir faire un gros ménage, ça on le savait, mais que les dirigeants ont déjà établi une liste de 11 joueurs partant l'été prochain, Julien, et pas des moindres. Il y aura des affaires à faire.
Oui, alors moi on m'a dit que la liste
par 11
elle était pas tout à fait exactement celle-là non plus, parce qu'un joueur comme Ben Chilwell par exemple, qui l'arrière gauche international anglais qui joue aussi piston gauche, qui est très bon depuis quelques matchs, je vois vraiment pas Chelsea s'en séparer maintenant, même s'ils ont un très bon jeune joueur qui sort du centre derrière, c'est pas le même niveau. Donc dans la liste des 11 joueurs avancés par The Athletic, donc il y a des joueurs comme Raheem Sterling, comme Pierre-Emerick Aubameyang, comme Hakim Ziyech, comme Mason Mount, alors certains Azpilicueta qui sont en fin de contrat quoi qu'il arrive, donc ils partiront, et d'autres comme Chilwell, même Kovacic, Kaya Verts par exemple. Il y a des noms qui sont surprenants, ouais, il y a des noms dont on me dit qu'ils ne sont pas sur la liste.
Intéressant à récupérer, ouais.
Mais alors à quel prix? Parce que tu peux pas non plus brader. C'est vrai qu'ils ont un effectif trop important. Ils ont 32 joueurs maintenant sous contrat, enfin 32 joueurs dans l'effectif de l'équipe première, sans compter les joueurs prêtés par exemple, qui est bien trop important. Mais tu vas pas pouvoir brader ces joueurs-là. Donc trouver 11 acheteurs pour ces 11 joueurs-là, voire plus même, ou voire d'autres que ceux qu'on a cités, à un prix correct. Raheem Sterling par exemple, que t'as acheté près de 60 millions d'euros il y a un an de ça.
Dingue.
Qui fait une saison très décevante, qu'à 28 ans, donc encore à 29 ans la saison prochaine, je vois pas comme, voilà, tu vas pouvoir peut-être le vendre, mais jamais tu rentreras dans ce que tu as pu dépenser pour lui, voire pour les autres.
Dans tous les cas, ils seront pas surpris quand même. Quand tu annonces la couleur, que tu veux plus 11 joueurs, tu veux quand même pas faire des bénéfices. Quand tu veux faire des bénéfices, tu vends pas les mauvais, tu vends les bons, non?
C'est vrai, tu as raison.
Mais c'est un souci pour eux de faire des bénéfices, hein, je suis pas sûr.
Avec le fair play financier, ils vont être obligés. Hein.
Ou même rentrer dans leur sous, c'est tout simplement impossible. J'ai pas le sens du commerce, mais un minimum quand même. Si tu te mets dans cette position-là, tu es sûr quand même que les clubs qui vont vouloir t'acheter des joueurs, ils se frottent les mains.
Oui, parce que les autres clubs savent que City, Chelsea est dans une situation d'urgence, doit vendre.
Absolument. Et c'est pas là que tu fais des affaires.
Quels sont les meilleurs coups à faire, Julien, là, par exemple?
Alors, après,
c'était le PSG, qu'est-ce qu'il faut faire là, par exemple?
Faut regarder les âges déjà. Un Ziyech à 29 ans, ça commence déjà à faire 29 ans, ça commence à faire. Il est encore bon pour quelques années, mais je pense que à certains prix, il vaut toujours mieux investir sur des joueurs plus jeunes. Chilwell à 26 ans, pour moi, c'est un excellent joueur de couloir gauche. On l'a dit. Pulisic à 24 ans, est-ce que tu peux lui faire retrouver sa meilleure forme? Est-ce que tu peux lui donner de la constance pour qu'il soit meilleur? Je suis pas sûr. Avert, c'est pareil. Si tu le mets dans le bon contexte, avec les bons joueurs autour, à son poste, ça peut être très fort, comme on l'avait vu au Bayer Leverkusen. À Chelsea, ça a été compliqué parce qu'il est un peu trimballé dans des postes différents. Tu le fais jouer en numéro 9 alors que c'est pas un numéro 9, on le sait bien. Voilà, c'est toujours pareil. Après, ça dépend aussi de la philosophie des clubs, de la façon dont ils jouent. Aubameyang à 33 ans, ça va être compliqué. Mason Mount, il a 24 ans. On en parle souvent avec Polo, tous les deux entre nous sur WhatsApp.
Lui, il était intéressant, lui.
Super intéressant. Je vois même pas pourquoi Chelsea. En plus, c'est un gamin du cru. Il est arrivé au club très très jeune. Il a fait toutes les catégories d'âge dans le centre de formation. Pourquoi est-ce qu'il voudrait s'en séparer maintenant? Ils sont en train de renégocier son contrat. Il aimerait une prolongation. Pour l'instant, il demande beaucoup d'argent. Alors, c'est peut-être ça qui coince.
Ouais.
Et c'est peut-être une façon aussi de lui faire comprendre qu'il faut baisser ses prétentions salariales ou sinon il sera sur le marché des transferts. Mais voilà, Mason Mount, pour moi, il y a aucune raison de le vendre si c'est Chelsea. Mais en revanche, c'est un joueur très intéressant à acheter si t'es un club acheteur.
Voilà pour Chelsea.
Quel âge il a, Azpilicueta?
33 ans, exactement.
Ouais, déjà, qu'est-ce que ça passe?
Ça passe très vite, coach. Hein. C'était loin à l'époque marseillaise.
Ouf.
Une saison à Marseille. Merci Julien, on te retrouve pour le débrief de City Leipzig tout à l'heure dans l'after, bien sûr. Demain soir, coach, Real Liverpool, hein, 5-2 à l'aller pour le Real, t'y crois ou pas? Une remontada de Liverpool?
Pas une seconde,
ok. Bon, Benzema débutera. Il y avait un doute après son absence ce week-end en Liga contre l'Espagnol Barcelone. Son coach Carlo Ancelotti qui l'a dit aujourd'hui, je le sens bien, demain il sera à 100%. Il est revenu à l'entraînement collectif dimanche.
Quand même
il a fait de bonnes séances.
Être très prudent. Je crois que derrière ça, il y a le Classico contre
dimanche
le Barça.
Soir, exactement.
Bah,
Barça-Real.
Si Karim fait 45 minutes, c'est pour moi... maximum.
Il est à fond et surmotivé, a dit Carlo Ancelotti. Tiens, info de nos camarades de l'équipe. Oussem Aouar a choisi de porter les couleurs de l'Algérie. Oussem Aouar, 24 ans, une sélection en bleu, mais c'était un match amical, donc non officiel, contre l'Ukraine en 2020. Donc il pouvait encore choisir sa sélection, en l'occurrence le pays de ses parents, donc l'Algérie. Bon, c'est vrai que les bleus devenaient de plus en plus loin pour lui, hein, coach.
Mais oui, c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie, mais il faut que Aouar monte son niveau, ce dont il est capable. Mais là, le Aouar qu'on voit sur ces derniers mois et sur ces dernières saisons, ben, c'est un Aouar décevant. Donc, c'est pour ça que se retrouver dans un contexte avec, sur un plan psychologique, la nation préférée de ses parents, je trouve que c'est une bonne idée de sa part parce qu'il n'y a aucune chance pour lui en équipe de France.
Benjamin Belmadi est convaincant, hein, puisque je vous rappelle qu'il a convaincu également le Niçois Bouanani,
qui est
de l'Algérie.
Qui est pas fort, qui est très très fort.
Exactement, on l'a appris hier, c'est un discours convaincant. Qui a aussi convaincu le latéral gauche nantais Jaouane Adjam, 19 ans, préconvoqué pourtant avec l'équipe de France Espoir, qui lui aussi choisit donc l'Algérie.
Mais je vois que Jamel Belmadi fait pas seulement du bon boulot en ce qui concerne son boulot de sélectionneur, c'est en même temps qu'il arrive à convaincre certains
des jeunes joueurs à plus en espoir.
Ah oui, je trouve. Bravo Jamel.
Et puis coach, on connaît le format de la Coupe du Monde 2026. J'espère que tu auras le temps parce que ça va durer 2 mois. Ça va durer 56 jours.
Mais
déjà,
j'ai un petit peu vu
56 jours.
Aujourd'hui, je trouve pas mal du tout, même si après.
Qu'est-ce qui te plaît? Je rappelle, hein, 48 équipes, 12 groupes de 4 et non plus 3 groupes de 16 comme
déjà,
il l'avait pensé
ça,
d'abord.
Déjà ça. Donc, plutôt que des groupes de 3, groupes de 4 avec donc 3 matchs par groupe, je trouve très bien. Mais bon, tu sais ce que je pense. Mais si tu ne sais pas, je te le dis. Je pense qu'il y a trop d'équipes, mais bon, c'est comme ça.
Ça permet à des pays de participer enfin à une Coupe du Monde, voilà, c'est aussi l'idée, c'est d'engranger encore plus d'argent, hein, puisque la FIFA engrangera 3 milliards de plus que la dernière Coupe du Monde.
Tu me l'as levé de la bouche.
3 milliards de plus que lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, qui s'est jouée la dernière
avec 32 équipes. Dans un instant, l'autre huitième de finale retour de Ligue des Champions, l'Indécis, Porto-Inter. L'Inter a battu Porto 1-0 au match aller. Porto veut sa qualification pour les quarts de finale. Les compositions avec Timothée Mémon dans quelques secondes, et puis Nico Villas et Johan Crochet pour nous éclairer sur les formes de l'Inter et de Porto. Vous écoutez l'Afterlife, un match de Ligue 2 également. Actuellement, le Paris FC mène 2-0 face à Amiens après 80 minutes de jeu. C'est un match en retard de la 23e journée de Ligue 2. A tout de suite, c'est l'Afterlife sur RMC, 20h39. On revient dans quelques secondes.
RMC, l'Afterlife.
Nicolas Jamain.
L'Afterlife RMC spécial Ligue des Champions, la soirée, la suite des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions avec deux affiches ce soir. Manchester City face à Leipzig et donc à 21h également le retour entre Porto et l'Inter. 1-0 pour l'Inter au match aller. Le retour ce soir au Dragao. J'accueille Nico Villas. Bonsoir Nico.
Salut, hola viva, comme dirait.
Hola viva.
Voilà. Hola viva.
On parlera de Porto avec toi dans un instant, bien sûr, ça va. Je t'ai jamais vu sur une casquette d'ailleurs. Toujours une casquette. Hein,
alors, on fait de la radio. Hein.
Alors qu'il a des cheveux, cet homme-là.
Oui, mais c'est lié à l'éclairage. Là...
Ah, d'accord.
Alors, parce qu'on fait de l'éclairage, on fait de la radio, mais il y a beaucoup d'éclairage parce qu'on est sur Twitch également.
Tout à fait, on est en direct sur Twitch.
Et gros soleil aujourd'hui.
Tu vas nous parler de Porto dans un instant, hein, avec une mauvaise nouvelle pour le FC Porto. On l'a appris il y a quelques minutes. Ça concerne un homme de 40 ans qui les a fêtés le 26 février dernier. Bon. On en parle également. Et puis j'accueille aussi Johan Crochet. Salut Johan.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Pour nous parler de l'Inter dans quelques secondes. D'abord les compositions officielles bien sûr, avec Timothée Mémon qui sera au commentaire de ce match. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Effectivement au commentaire de ce match, et tu as un petit peu dévoilé une partie de la composition, en tout cas un des éléments importants de la composition du FC Porto, c'est l'absence de Pepe, le défenseur central de 40 ans, inconfort physique. Voilà ce qui a été avancé comme raison de son absence, en tout cas officiellement. Résultat, dans la cage, on aura Diogo Costa, une défense Ivan Marsano et Fabio Cardozo. Sur le côté droit, Pep, le Brésilien. Saïdou Sanoussi sur le côté gauche, le Nigérian. À la récupération, on va retrouver Marco Grucic avec Mateus Uribe et Stéphane Eustachio, le Canadien. Et puis Vanderson Galeno sur le côté gauche de l'attaque. Evan Nilsson sur le côté droit et Mehdi Taremi en pointe de cette équipe de Porto.
Voilà pour la position de Porto. Un mot quand même, Nico, c'est important, l'absence de Pep ce soir. Gros coup dur, hein. 40 ans, il les a eu le 26 février, qui fait une excellente Coupe du Monde lui aussi, qui revenait en forme.
Il y avait une rumeur au Portugal, à Porto, depuis quelques heures, comme quoi il était incertain, Pep. Et au final, ça se confirme, puisqu'il a une blessure musculaire et il est donc absent. Ça veut dire qu'en défense, t'as et Pep d'absent et João Mario qui est absent aussi.
Beaucoup,
Sergio Conceição l'avait confirmé hier. Ça, plus la suspension d'Otavio, qui est peut-être le playmaker, le maître à jouer de cette équipe, ça fait quand même beaucoup d'absence. Hein.
La composition de l'Inter, Timothée.
L'Inter alignera André Onana dans la cage, une défense à trois classique, Bastoni, Acerbi, Darmian. Sur le côté droit, Denzel Dumfries. Sur le côté gauche, Federico Di Marco. Au milieu de terrain, Mkhitaryan associé à Çalhanoğlu et Nicolo Barella. Et à la pointe de l'attaque, ça fait frémir Edin Dzeko et Lautaro Martinez.
Johan, ton regard sur la composition de Simone Inzaghi, pas de surprise?
Non, à partir du moment où Skriniar est encore incertain, enfin pas à 100%, en tout cas il était blessé pour la moto et il n'est pas en capacité de jouer un match de Ligue des Champions pour le moment. On se retrouve avec Darmian en tant que stopper droit dans la défense à 3 et c'est un peu léger sincèrement pour ce niveau-là, même s'il est plein de bonne volonté. Et après le reste c'est du grand classique. La seule question qu'on se posait, c'est est-ce que ça sera Dzeko ou est-ce que ça sera évidemment Lukaku. Il a choisi Dzeko, ce qui est pas illogique sur les semaines précédentes. Lukaku pourra entrer en jeu pour peser sur une défense qui aura déjà pas mal de minutes dans les jambes.
Absolument.
Et puis si on regarde un petit peu le banc, il y a aussi quand même Brozovic qui peut être une entrée importante, et moi j'avais adoré son entrée au match aller. Et par contre il y a l'absence évidemment de Gosens. Quand on sait que Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, aime beaucoup changer ses joueurs de côté aux alentours de la 60-65e, bah là autant il peut le faire éventuellement sur le côté droit, autant côté gauche il va falloir que Di Marco tienne les 90 minutes.
C'est un moment important.
Et Gosens, c'est quoi le problème?
Problème musculaire. Donc on estime l'absence semaine, même si avec la trêve internationale ça durera pas aussi longtemps pour l'Inter entre guillemets.
L'Inter deuxième de Serie A, hein, largué par rapport au Napoli. Simone Inzaghi joue gros ce soir, Johan.
Alors, on va dire que c'est ce soir et dimanche, parce que il faut rappeler que ce week-end en Serie A il y a le derby d'Italie, le derby entre la Juve et l'Inter, match très très important évidemment puisque l'Inter est dans sa fameuse période des montagnes russes et que le match vendredi soir perdu à Spezia a vraiment irrité à la fois les dirigeants et les supporters. Donc ce match-là, il est très important parce que les quarts de finale et l'Inter, c'est une histoire qui n'existe pas depuis très longtemps.
11 ans, oui, déjà.
Exactement, c'est ça. Que s'il parvient à qualifier l'Inter, bah, ça sera un joli pied de nez à ceux qui réclament un retour d'Antonio Conte, parce que Antonio Conte ne passait jamais la phase de groupe de Ligue des Champions, alors que lui a déjà fait un huitième de finale la saison dernière et que là, il pourrait se qualifier en quart de finale. Donc, il y a évidemment à la fois une part sportive qui est très importante, il y a une part de réputation aussi pour le club qui est très importante sur la scène européenne, qui avait un peu disparu. Et puis la troisième donnée, elle est économique, parce qu'un passage en quart de finale, c'est à la fois des recettes supplémentaires des primes UEFA, c'est à la fois des recettes supplémentaires liées au market pool, donc les droits télé qui sont divisés entre tous les clubs italiens, et c'est aussi une recette énorme liée à la billetterie, puisque je rappelle que San Siro fait 80 000 places, et que par exemple Milan, lors de son huitième de finale aller, là c'est Milan, a fait plus de 9 millions d'euros d'entrée sur le huitième de finale aller. Donc on peut estimer que sur un quart de finale, on sera aux alentours de 9 ou 10 millions supplémentaires juste sur la billetterie. Donc si vous ajoutez la billetterie, le market pool des droits télé et les primes UEFA, bah on parle de
300 euros la place, coach. Non, je plaisante.
Non, mais avec 80 000 places plus les loges, ça va assez vite.
Surtout
final.
Plus les loges, exactement. T'as raison.
Exactement. Et l'Inter, si je parle du facteur économique, c'est parce que la famille Zhang et Suning, le groupe Suning qui détient l'Inter, bah c'est un petit peu compliqué au niveau financier.
Combien de déficit? Dis-moi.
Bah le déficit chaque année, il est de plus de 200 millions d'euros.
Simplement. Oui.
Et l'Inter a urgemment besoin de financer.
Oui, mais il
n'y
a pas que vous qui avez besoin d'argent, Johan.
Comment?
Il n'y a pas que vous qui avez besoin d'argent.
Le portugais également, Porto aussi.
Et notamment les gros, le FC Porto est le club portugais qui a le plus gros passif comptable, parce que Porto est un club coté en bourse et tous les comptes sont consultables sur internet, hein. Vous avez tout ça en format PDF tous les trimestres, comme le veut la loi de la bourse, parce que le club est coté en bourse. On est sur plus de 400 millions d'euros de passifs, ce qui est quand même colossal. Et pareil, au Portugal, ils font beaucoup d'articles, forcément, sur ce que peut amener une qualification. Là, en cumulé, depuis le début de la saison, ça ferait plus de 70 millions d'euros pour Porto, qui a quand même le fair play financier quand même au Basque depuis un certain temps maintenant. Là, ça va un petit peu mieux, mais c'est très important aussi. Johan a raison de rappeler cet aspect-là. C'est pas parce qu'il y a des gros investisseurs derrière qu'il n'y a pas des nécessités économiques, surtout dans un contexte où l'UEFA est très vigilante là-dessus, et notamment sur les dépenses et les rentrées d'argent qu'il peut y avoir dans ces clubs-là.
C'est un match important pour l'Inter, pour Porto également, et plus largement Nico, pour le foot portugais.
Oui, parce qu'il y a l'aspect économique, bien entendu, mais il y a surtout le ranking UEFA. Alors, en France, on a beaucoup regardé ce que faisaient le Portugal et les Pays-Bas, et qui sont derrière la France à l'indice UEFA. Le Portugal peut...
France 5, Portugal 6, voilà. Pays-Bas 7.
Le Portugal n'inquiétera pas la France cette saison. En revanche, le Portugal est très inquiété par les Pays-Bas. C'est-à-dire que si le FC Porto ne se qualifie pas, et où le Sporting en Europa League face à Arsenal, il y a eu deux partout lors du match aller, le Portugal est quasi assuré de perdre la sixième place au ranking UEFA, ce qui voudrait dire que lors de la prochaine saison, ils auraient pas deux clubs plus un en Ligue des Champions, mais un plus un, ce qui est quand même colossal. Là aussi, c'est des rentrées en moins pour les clubs portugais liés au market pool et aux prestations, aux dotations UEFA. Et pour l'instant, alors, il faudrait que, non seulement que Porto se qualifie face à l'Inter ce soir, que le Sporting se qualifie face à Arsenal, mais qu'en plus ces deux équipes-là, enfin ces trois, puisque le Benfica est déjà qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, fassent d'énormes performances pour espérer ne pas être dépassé par les Pays-Bas au ranking UEFA. Donc il faudrait quasiment un miracle, un éventuel trophée européen pour l'un de ces trois clubs cette saison, pour que le Portugal maintienne sa sixième place au ranking UEFA. Donc c'est très important aussi à ce niveau-là.
Pour la saison prochaine, mais également pour la saison suivante, avec la réforme des champions. Je rappelle que le cinquième aura trois tickets plus un. Exactement. Pour la Ligue des Champions en 2024.
Mais c'est mal barré pour les Portugais.
Avec mal barré pour les Portugais. Les Pays-Bas, c'est la menace, coach, pour le football français.
Bah oui.
Mon cher Johan, un mot de Skriniar quand même. Après sa venue manquée au PSG cet hiver, comment ça se passe pour lui depuis plusieurs mois? Il n'a pas été épargné par des blessures, notamment au dos.
Ouais, exactement. C'est un peu décevant parce que on sait que l'Inter a fait un choix l'été dernier. Le choix, c'était de pas recruter un défenseur central supplémentaire, de garder l'ossature qui était de base Bastoni, Skriniar, donc à gauche et à droite du défenseur central, qui devait être De Vrij. Sauf que De Vrij, le défenseur néerlandais, est en difficulté. Il est j'allais dire plus haut niveau, c'est peut-être un peu difficile, mais pour le très haut niveau, ça devient compliqué pour lui d'enchaîner. Et donc la seule recrue qu'ils ont fait, c'est Acerbi, et le problème, c'est dès qu'il manque un joueur, que ça soit Bastoni, que ça soit Skriniar, c'est très compliqué pour l'Inter parce qu'ils ont pas de vrai, on le voit ce soir, hein, ils ont pas de vraie alternative. L'alternative, c'est de mettre un latéral droit qui doit faire 1m75. Donc c'est tout de suite un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai que Skriniar, son début d'année 2023, il est compliqué. Si on regarde depuis le début février, il a fait 3 matchs. 3 matchs, c'est pas suffisant.
Il a perdu le brassard également.
Il a perdu le brassard, logique, mais ça c'est plus lié à la situation contractuelle.
C'est ça.
Mais on verra si ce soir il peut jouer un morceau de match parce que.
Il y a un Inter avec et sans,
pendant
quoi,
90 minutes, avec Dumfries pendant 90 minutes, sachant que les deux se jouent normalement au poste de latéral droit, il va falloir à un moment donné qu'il y ait un défenseur qui rentre dans la rotation de ce match-là. Donc peut-être que Skriniar pourra être amené à entrer en deuxième mi-temps et permettre surtout de réenclencher vers une fin de saison qui est très importante pour l'Inter, et l'Inter aura vraiment besoin de son désormais ex-capitaine.
Nico, argument pour le FC Porto pour une qualif pour les quarts de finale, Galeno est là, un des meilleurs buteurs du FC Porto, également Milly Taremi, de retour en forme après 2 mois. Bon, c'était pas un trou d'air non plus, hein, je crois qu'il était à 20 buts.
Ouais, alors après, sur l'année 2023, il était pas bien. Il avait marqué que 2 buts depuis le début de l'année jusqu'à il y a 3 matchs, puisque là, il est sur 2 buts sur les 3 derniers matchs. Il a marqué contre le Gil Vicente, mais Porto avait perdu en championnat à domicile, ce qui était d'ailleurs assez surprenant. Galeno est là, c'est le deuxième meilleur buteur du club cette saison. Lui qui est né au Brésil, qui a un passeport portugais depuis quelques mois et qui pourrait être l'une des surprises dans la première liste du nouveau sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, qui tombera vendredi. Ils vont jouer le Liechtenstein et le Luxembourg en qualif pour l'Euro, les Portugais. Et en revanche, il y avait quand même une surprise, c'est que Evan Nilsson était blessé, il avait plus joué depuis le match aller face à l'Inter, et là Conceição le titularise, donc c'est assez surprenant. C'est vrai qu'il n'était pas prévu dans les compos probables non plus. Peut-être que les absences ont fait que le fait que Pepe remplace Jean Mario dans le couloir droit, lui qui est plutôt un ailier qui va jouer du coup un peu piston latéral dans ce couloir, il a déjà joué à ce poste là peut-être que Conceição voulait mettre un autre joueur offensif, sachant que Pepe avait l'habitude de jouer à ce poste offensif. Il y a des petites surprises, mais ces 3 bons joueurs, Evan Nilsson, on va voir comment il est physiquement. Taremi va mieux et Galeno, il est clairement dans la forme de sa vie. Hein. Il l'a dit encore cette semaine et qu'il avait, il s'était jamais senti aussi bien. Il avait jamais été aussi performant que cette saison. Il est assez polyvalent. Il joue dans les deux couloirs. Il peut jouer aussi comme faux neuf. C'est un joueur qui est hyper intéressant, très actif, très puissant également. Il aime bien jouer dans la profondeur. Donc peut-être à suivre ce soir. Ça peut être l'une des armes de Porto ce soir contre l'Inter.
Mais Taremi, donc titulaire, hein, lui qui ne cache pas son soutien, qui affirme son soutien régulièrement. Ouais. Mouvement de révolte contre le régime iranien actuellement. Alors on va savoir dans quelques secondes ce que coach voit pour ces 2 matchs, hein, City, Leipzig et donc Inter Porto en Paris.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Julien Bouvneuf. Salut Julien.
Salut Nico, salut coach. Bonsoir tout le monde.
Les codes de Manchester City, RB Leipzig.
1,33 la victoire de Manchester City, 5,50 le match nul et 9,50 la victoire de Leipzig. Leipzig, s'ils veulent se qualifier, on est d'accord, va falloir qu'ils gagnent. Sauf que à domicile cette saison, toute compétition confondue à l'Etihad Stadium, Manchester City, c'est une seule défaite. C'était face à Brentford en novembre dernier. Et en Ligue des Champions, c'est encore pire parce que la dernière défaite de City à domicile, alors je compte pas le Final 8 parce que c'était en terrain neutre à Lisbonne, mais la dernière défaite de City à domicile en Ligue des Champions, c'était en septembre 2018 face à Lyon, la phase de poule avec le but de Nabil Fekir. Donc c'est dire la complexité de la tâche qu'attend les Allemands ce soir. C'est pour ça que je vois, j'ai un peu de mal quand même à voir Leipzig se qualifier. Je vois plutôt City gagner avec peut-être les deux équipes marquées parce qu'il y a du potentiel offensif sur le terrain côté Leipzig. C'est coté à 2,80. Je ne sais pas ce que coach voit.
Ouais, presque ça. Donc disons allez. Plus de 2,5 dans le match, victoire de City et but de Haaland.
Et ça, c'est coté à 2,10. Rapidement, si on fait l'autre Porto match, Inter. Nico, 2,95 la victoire de Porto, 3,30 le match nul et 2,50 la victoire de l'Inter avec tout ce que vient de me dire Nico Villa juste avant. Avant, j'étais confiant sur la qualification de Porto, mais avec tous les absences, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, je vois quand même l'Inter, Porto ne pas perdre, mais les deux équipes marquées, ça, c'est coté à 2,35.
Julien, merci.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La soirée des champions se lance dans quelques secondes sur RMC. 2 affiches, Manchester City Leipzig et Porto Inter. Le casting, coach Courbis, Lionel Charbonnier arrive, Nico Villas aux manettes. Belle soirée sur RMC. L'after dans la foulée avec Gilbert, Daniel et Lionel également pour le débrief. C'est parti, Ligue des champions sur RMC.